Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. Généralement, on couvre l'actualité chaque semaine et on vous explique et on détaille et on analyse ce qui se passe d'important dans cette industrie si essentielle qu'est la tech. Mais aujourd'hui, on fait un épisode spécial sur le journalisme, mais pas n'importe quel journalisme, spécifiquement le journalisme indépendant, et pas n'importe quel journalisme indépendant, mais le journalisme indépendant à l'heure du net, à une époque où la presse est impactée par Internet, et peut-être le travail des journalistes eux-mêmes est également impacté, et la manière dont ils conçoivent leur travail a peut-être été transformée, je mets beaucoup de peut-être, mais on va avoir les réponses dans quelques minutes. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode spécial. Et je suis également très heureux d'accueillir des intervenants réguliers de l'émission. On commence avec Lucie Ronfaux. Bonjour Lucie, comment vas-tu ?
Bonjour Patrick, je vais très bien et toi ?
Écoute, moi je suis bien accompagné pour cet épisode, donc forcément ça va bien. Tu sais, quand les podcasts se passent bien, tout va bien dans ma vie. Donc là, je suis heureux. On te présentera dans un instant pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas les détails de ton activité, mais on va quand même dire bonjour à Jérôme Marin qui nous rejoint également. Bonjour Jérôme, comment ça va ?
Patrick, très bien, très très bien.
Tu es prêt à expliquer tous les détails de ton quotidien, de comment devenir journaliste indépendant pour tous ceux qui en rêvent ? Puisqu'on peut aujourd'hui.
On va essayer de faire rêver les gens, ça va être compliqué peut-être. On va essayer.
On va voir ce que ça va donner. Du coup, on va, comme toujours dans ce genre d'épisode, conversation, on imagine le feu qui craquelle dans un coin de la pièce et on discute entre amis avec un verre, je ne sais pas, de brandy. Je viens de finir la première partie de la dernière saison de The Crown, donc je nous vois bien dans un manoir anglais avec le feu et le brandy à côté. Et on va parler, peut-être au départ, essayer de planter le décor de la manière dont le journalisme indépendant fonctionnait il y a quelques années à peine, et puis ensuite parler de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Mais avant même de partir dans ces détails-là, je voudrais que vous vous présentiez. Comme je disais, les auditeurs vous connaissent, je pense, s'ils écoutent l'émission, mais peut-être remonter un petit peu plus loin que d'habitude pour nous dire d'où vous venez, où vous avez commencé dans ce merveilleux monde du journalisme et votre parcours peut-être. Je crois que pour tous les deux, il y a eu un moment où il y a eu une transformation qui s'est opérée dans votre activité professionnelle, peut-être jusqu'à cette transformation et le passage encore plus en indépendant. Lucie, commençons avec toi. D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?
D'où viens-tu ? Alors, je suis née à Reims. Non, je ne vais peut-être pas remonter aussi loin. Donc, moi, je suis journaliste depuis 10 ans maintenant, donc depuis 2013, en tout cas de manière professionnelle. Moi, j'ai commencé ma carrière directement en sortant des études au Figaro. J'ai été 6 ans et demi en fait au Figaro. Plus particulièrement, j'ai travaillé en fait dans l'équipe qui était en charge de la page tech et médias pour le cahier saumon du Figaro. Pour les personnes qui liraient pas le Figaro, c'est les pages économie en fait du journal. Et en fait, moi, la grande chance que j'ai eue, c'est que en fait, dès le départ dans mes études, j'ai su que je voulais me spécialiser dans les nouvelles technologies. Ça m'intéressait beaucoup à titre personnel. Et en fait, moi, je suis arrivée au Figaro en stage à un moment où le Figaro lançait en fait cette fameuse page dédiée aux actualités des nouvelles technologies. Alors, le Figaro parlait déjà de tech avant, hein, mais le Figaro avait décidé de sanctuariser un endroit dans le journal vraiment pour ses actualités du numérique. Et en gros, moi, je suis un peu arrivée en renfort en tant que stagiaire à ce moment-là, en 2013, en tant que stagiaire. Ça s'est tellement bien passé qu'on m'a proposé un apprentissage. J'ai fini mon master comme ça en alternance. Et ensuite, on m'a proposé un CDD, puis des CDI, puis un CDI. Et donc, je suis restée là-bas 6 ans et demi. Donc ça a été mon, le gros morceau de ma carrière jusqu'ici, hein, parce que ça fait 10 ans que je fais ça. Et en 2019, et ça on en parlera plus tard, j'ai quitté le Figaro et je suis devenue ce qu'on appelle une journaliste pigiste, c'est-à-dire une journaliste indépendante. Et ça, ça fait 4 ans maintenant que je le fais.
Ouais, donc on est, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans un début qui est exactement ce que je voulais avoir dans cette émission. C'est l'arrivée avec, je dirais presque, alors l'institutionnel dans le sens où c'est une institution, le Figaro, de la presse traditionnelle je ne veux pas dire ancienne, mais enfin, qui a une certaine histoire.
C'est la vieille presse, hein, c'est pas négatif de le dire, c'est un vieux journal. Mais effectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un début de carrière très... assez idéal, quoi. Hein, je veux dire, commencer dès la fin de l'école dans un grand journal comme ça. Et en plus, moi, je ne dépendais pas du site internet, mais du papier, ce qui a changé les choses dans... à la manière dont j'étais payée, notamment, hein, il faut le dire clairement. Non, clairement, j'ai eu beaucoup de chance dans mon début de carrière.
Jérôme, toi aussi, tu étais dans la presse traditionnelle quand tu t'es lancé, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton début de parcours ?
Alors, moi, je suis un peu plus vieux que Lucie. Donc, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. Je n'ai plus la date exacte. Je me perds entre les dates, mais je crois que c'est 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va faire 16 ans même. Donc voilà. Moi, j'ai commencé aussi dans la presse nationale. Donc, j'ai eu la chance, comme Lucie, de commencer dans un grand quotidien qui était La Tribune, donc quotidien économique, qui était à l'époque un quotidien qui n'est plus quotidien aujourd'hui. J'ai commencé, moi, par contre, sur Internet où je suivais Wall Street, donc je suivais la bourse américaine. J'ai fait ça pendant 2 ans et au bout de 2 ans, j'ai eu encore une chance encore plus grande, c'est que j'ai pu partir à New York avec La Tribune. Donc, j'étais nommé correspondant à New York de La Tribune où je suivais donc la bourse américaine, je suivais également la politique américaine, l'économie américaine. Donc, c'était un métier de correspondant, vous êtes très, très large. Hein. Donc, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai pris une clause de cession. Donc, je ne sais pas si on explique ce que c'est, mais grosso modo, La Tribune a été vendue. Et quand on est journaliste et qu'un média est vendu, on a l'opportunité de partir avec un peu d'argent. Et voilà. Donc, j'ai pris ça et je suis parti à San Francisco un peu à l'aventure où là, j'étais en pige aussi. Donc, journaliste indépendant, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais journaliste pigiste, mais très régulier. Donc, je collaborais globalement. 80% de mon travail, c'était pour Le Monde.
C'était en quelle année, ça, que tu es parti à San Francisco ?
En 2012. Je suis arrivé en septembre 2012, très exactement. Donc, juste un peu avant que Lucie commence au Figaro. Et c'était un peu la même chose où la tech était traitée à l'époque dans Le Monde, mais de manière assez légère, pas légère, mais de manière assez superficielle, on va dire. Et il y avait une volonté d'ouvrir une couverture plus importante de la tech, notamment parce qu'il y avait de plus en plus de sujets qui montaient dans la Silicon Valley et ailleurs. Donc moi, j'ai profité de ça pour pouvoir aller à San Francisco. J'ai passé 7 ans et demi à San Francisco. Donc je suis rentré en France en début 2019 pour des raisons personnelles et aussi professionnelles. Et je suis retourné à La Tribune pendant 1 an, où j'ai été rédacteur en chef adjoint de La Tribune pendant 1 an. Et je suis parti après le Covid pour me lancer dans l'aventure de médias indépendants dont on va parler tout à l'heure.
D'accord. Donc, tu es devenu vraiment indépendant, on va dire, toi aussi, autour de 2019-2020, où
septembre 2020.
C'est ça. Et du coup, c'est absolument parfait parce que vous allez pouvoir me dire si mon intuition est juste. Moi, j'ai l'impression que la presse et le monde du journalisme d'avant, comme on en plaisante, a vraiment perduré jusqu'au peut-être début, milieu des années 2010. Et que jusque-là, bien sûr qu'Internet avait déjà eu un impact sur énormément d'industries et on savait bien que ça allait avoir un impact important sur la presse, mais la presse a perduré, continué pendant assez longtemps, même si, on va dire, Internet a commencé à rentrer dans les foyers fin 90, début 2010. La presse, elle, traditionnelle, n'a vraiment dû changer, s'adapter que début, milieu des années 2015. Et donc, jusqu'à ce moment-là, on avait une presse qui était peu ou prou, avec un site web en plus du journal papier, mais peu ou prou, relativement stable. Et puis, il y a eu des changements de plus en plus importants à partir de ce moment-là. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que ma timeline n'est pas tout à fait juste ?
Moi, je peux parler que de ce que j'ai vécu, mais moi, quand je suis arrivée en 2013, la transition au Figaro, elle était déjà bien faite, hein, dans le sens où le Figaro.fr, c'était une partie très importante du Figaro, avec une vraie équipe. Donc après, je pense qu'il faut vraiment décorréler le traitement de l'industrie du numérique d'un côté, qui effectivement a beaucoup changé en 10 ans. Je trouve qu'entre 2013 et 2023, il y a une vraie accélération sur le traitement de la tech par les médias grand public, en tout cas. Mais par contre, la transition, la transition des médias vers Internet, je la daterais de quand même avant, parce que, par exemple...
Excuse-moi, je précise en fait ma pensée, t'as raison, je ne l'ai pas bien expliqué. Ce que je voulais dire par impact, c'est que la presse papier a peut-être commencé à moins bien se vendre et ça a impacté les revenus des groupes de presse qui ont du coup dû opérer des transformations différentes, peut-être réduire des équipes. Je parlais plus de l'impact financier, peut-être avec des gens qui achètent moins de journaux, qui restaient une partie importante du financement. Tu vois, et là, je ne sais pas si je me plante ou pas.
Ouais. Je te laisserai répondre, Jérôme, parce que tu auras peut-être plus de choses à dire. Moi, je pense que, vu que j'ai commencé à bosser il y a 10 ans, je me rends bien compte que mon expérience n'est pas du tout la même que les autres journalistes de mon âge. Moi, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui ont été beaucoup plus dans des médias type pure player, donc vraiment très en ligne, et qui ont vécu ces trucs des médias qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Donc ça, c'est clair que je l'ai observé, mais je ne l'ai pas vécu. Donc je ne suis pas très à l'aise de répondre sur ce sujet, honnêtement. D'accord. Parce que franchement, les médias traditionnels sont quand même les mieux positionnés, à fortiori Le Monde et Le Figaro, pour avoir les reins pour gérer cette transformation, quoi.
Non, alors moi, je ne sais pas si je peux le dater en 2015, c'est assez mouvant par rapport aux médias. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé en 2007, 2008 à la Tribune. En 2008, il y avait un site internet qui était une équipe dédiée où les journalistes papier ne se mélangeaient pas avec les journalistes internet. C'était très mal vu de mettre des papiers sur internet. Il y avait même des fois, alors vous savez, quand on fait un journal papier, on prévoit le matin, on va dire bon, on va mettre ça, ça, ça et ça dans le papier, et puis il se passe des choses, et puis il y a des papiers qui passent à la trappe. Et moi, j'ai déjà vu des journalistes qui refusaient même que leur papier soit mis sur internet. Ils préféraient que le papier soit jamais publié que plutôt il soit mis sur Internet. Donc il y avait vraiment une vraie séparation entre Internet et le print. Le print, c'était le truc le prestigieux. Internet, c'était le truc des jeunes qu'on mettait là où voilà, c'était très très mal vu. Il y a une transformation qui s'est opérée. Alors je ne peux pas la dater précisément, mais c'est clair qu'il y a un moment où Internet est monté en puissance, que les ventes de papier se sont vendues et que les journaux ont commencé à faire une transformation dans leur organisation. Et donc on a créé des organisations bimédia, ce qu'on appelle bimédia aujourd'hui. Où il n'y a plus vraiment de rédaction. Enfin, il y a toujours des rédactions web et print, mais les frontières sont de plus en plus floues. Et
tu veux dire pas de rédaction séparée, quoi ? Pas clairement divisée entre eux, vous ne parlez pas entre eux.
Idéalement, il n'y a pas de rédaction séparée. Après, dans les faits, il y a toujours un peu de rédaction séparée parce que quand il y a des breaking news, il faut que ce soit des gens qui fassent ça. Il y a ce qu'on appelle un desk qui va s'occuper des breaking news. Mais après, les journalistes du papier contribuent à Internet, écrivent leurs papiers sur Internet, puis après sont publiés en ligne. Et là, le meilleur exemple, c'est le New York Times. Le New York Times qui est souvent précurseur dans ça. Mais aujourd'hui, dans le New York Times, donc on appelle du reverse publishing, ça s'appelle. Juste pour expliquer, avant, on publiait les articles dans le print et le soir ou le lendemain matin, on les mettait sur Internet en payant ou en gratuit. Il y avait une stratégie qui était un peu différente. Aujourd'hui, on fait du reverse publishing, c'est-à-dire que n'importe quel journaliste publie d'abord son papier, pas tous, hein, mais généralement quand c'est de l'actu, sur le site Internet, et après, le média décide ce qu'il va mettre dans son papier. Le New York Times, c'est ce que fait aujourd'hui le New York Times, c'est-à-dire qu'on ne décide pas ce qu'on met dans l'édition print le matin, on décide le soir, selon l'actualité, selon les papiers qui ont été faits. Et donc ça, c'est une vraie stratégie qui est nouvelle. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est 2015, 2016 ou plus tard, mais en tout cas, il y a une vraie changement d'organisation qui fait que Internet, c'était avant quelque chose de secondaire, d'annexe, qui n'était pas la priorité. Aujourd'hui, c'est devenu, pour quasiment tous les médias, la priorité, même si, il faut bien le dire, que la majorité des recettes médias, ça reste encore le print. On gagne beaucoup plus d'argent en vendant de la pub sur le print qu'en vendant de la pub sur Internet. Et donc, c'est pour ça qu'on voit monter les abonnements. Enfin, voilà.
Ouais. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on passe de cette mécanique ou de cette logique où le print est, comme tu le disais, secondaire, à une logique où, bah, de toute façon, les gens vont avoir l'information par Internet, donc autant la mettre tout de suite sur Internet et faire de l'édition papier une sorte de curation, de sélection des choses les plus importantes, les plus intéressantes peut-être, qui va être consommée différemment par les consommateurs, pas autant pour s'informer des gros titres, mais pour avoir quelque chose d'un petit peu plus en profondeur, ou une sélection en tout cas.
Après, il faut voir que l'édition papier, ça reste le prestige. Hein. Pour beaucoup de journaux, c'est prestigieux d'avoir l'édition papier. Il y a des gens qui continuent à lire l'édition papier, notamment pour le Figaro Echo ou pour les Échos, les grands patrons, on se dit que les grands patrons continuent à lire le journal le matin. Donc, c'est pour ça que ça existe encore. Et ça reste, il y a encore un public qui lit le journal en papier. Mais c'est vrai que de plus en plus, ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur Internet et que la majorité des gens vont lire sur Internet.
Mmh. Oui, moi, ouais. D'ailleurs, j'avais des sources au Figaro qui me demandaient systématiquement si mon papier allait être sur le print ou sur le web et n'acceptaient pas forcément de me parler si c'était juste, et je mets des guillemets avec les doigts, un article pour lefigaro.fr.
Ah oui, d'accord.
Oh, bah, oui, bah, qui valorisait clairement beaucoup plus le fait d'être publié sur le papier, bah, justement du fait de ce côté prestigieux. Comme le dit Jérôme.
J'imagine que ça a un petit peu disparu, ça, aujourd'hui.
Ah non, pas sûr. Après, moi, ça fait longtemps que j'ai pas été dans une rédaction ouais. Qui produit un journal papier, donc je saurais pas te dire. Mais non, mais et de fait, je pense que c'est aussi assez naturel. Le journal, c'est quand même. Alors moi, pas quelque chose que je consomme tous les jours, mais j'aime encore aujourd'hui consommer des choses papier. C'est quelque chose de joli qu'on visualise bien, qu'on peut voir dans les cafés, qu'on peut voir chez soi, qu'on peut afficher, qu'on peut montrer. Il y a un peu ce côté matériel qui est, je pense, important. Et encore aujourd'hui, moi, quand j'ai l'un de mes articles qui passe dans une édition print, ça m'arrive, par exemple, quand je collabore avec Libération ou Le Monde, bah, je vais acheter le journal dans lequel mon papier est passé parce que j'aime bien avoir la trace. Donc, j'approuve pas le fait de ne pas répondre aux journalistes qui n'écrivent que, et encore une fois, je mets des guillemets, sur le web, mais je pense que c'est un réflexe qui est assez naturel.
Non, et puis je pense qu'on peut le comprendre et beaucoup de gens peuvent imaginer la situation où, machin est dans le journal, mon fils est dans le journal, on achète le journal, on l'offre à tout le monde. Voilà, c'est une situation que j'ai pu vivre également. Quand je parle de journaliste indépendant, je me demande si j'ai pas là aussi une idée un tout petit peu faussée que vous pourriez corriger. D'une certaine manière, j'ai l'impression que cette classe de journalistes indépendants à l'heure du net, dont on va commencer à parler bientôt, est presque une classe nouvelle ou différente, mais comme vous le rappeliez, les pigistes ont toujours existé, et les pigistes, en fait, c'est des journalistes indépendants qui sont loosely, en anglais, affiliés à une rédaction, donc on reçoit quand même des rémunérations qui sont sous forme de mini, pour je schématise, un mini fiche de paye d'une rédaction. C'est pas tout à fait un travailleur complètement indépendant qui aurait, je sais pas moi, sa propre entreprise.
Ça l'est pas du tout, d'ailleurs. Enfin, je vais le préciser.
Vas-y.
Bah, en fait, la pige, alors c'est un statut qui est super compliqué à expliquer parce que c'est devait être un peu particulier, mais en fait, la pige, c'est du salariat. Mmh. C'est-à-dire que, selon la jurisprudence, quand on collabore en tant que pigiste avec une rédaction de manière régulière, on est considéré comme en CDI avec cette rédaction, donc avec tous les avantages que ça suppose. Par exemple, moi, je pige donc régulièrement avec Le Monde, j'ai accès, par exemple, au CE du Monde. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un avantage un peu concret, mais j'ai aussi tous mes autres avantages sur ma fiche de paie notamment. Donc j'ai un salaire, ce qui est du coup un statut qui est vraiment qui est intéressant et qui a tendance à être beaucoup plus protecteur que tout ce qui va être freelance, par exemple, parce que qui dit fiche de salaire dit que pour chaque pige, je vais créditer pour mon chômage, je vais créditer pour ma retraite, etc., comme n'importe quel autre contrat, quoi. Donc c'est pour ça que la pige qui concerne, il me semble que les stats, c'est plus de la moitié des journalistes en France sont pigistes, hein, donc on est quand même... On est quand même très nombreux et nombreuses. C'est un statut qui est très mal mené, notamment malheureusement par les rédactions. Et il y a beaucoup de collectifs et de syndicats qui se battent pour nos droits. Et je les en remercie parce que c'est grâce à ces avantages qu'on peut aussi faire ce taf d'une manière relativement sereine, quoi.
Mais pour qu'on soit bien clair, une pige, quand on dit on est considéré comme salarié, si on peut faire un mois un papier qui va, je dis n'importe quoi, mais qui va être payé 200 euros, le mois suivant on en fait 3, on va gagner 600, le mois d'après on en fait 10, on va gagner plus, mais vraiment on peut faire des mois pour telle rédaction, on peut peut-être travailler avec d'autres, mais recevoir un salaire de telle rédaction qui va être extrêmement variable d'un mois sur l'autre, en fonction de ce que te propose la rédaction ce mois-là, on est d'accord.
Oui, alors il y a autant de situations de pige que de pigiste, hein, de manière assez logique. Moi, par exemple, je suis une de ces pigistes qui a la chance de toucher un chômage. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je suis partie du Figaro en 2019, je suis partie via un plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait que j'ai pu avoir une rupture conventionnelle, qui veut dire que j'ai pu avoir mon chômage. Et donc, en fait, techniquement, je suis au chômage depuis 2019, mais en fait, je travaille. Donc, vu que je travaille, je continue à créditer pour mon chômage, ce qui fait que quand j'ai des mois où je gagne moins que mon chômage, le chômage vient me faire un complément. Donc ça, déjà, c'est un filet de sécurité qui est ultra important et qui m'est disponible parce que, justement, j'ai accès à ce statut de pigiste qui est un statut qui me donne ses droits sociaux.
Dans cette configuration, c'est presque un statut... C'est comparable à l'intermittence du spectacle. J'ai été intermittent pendant quelques temps. C'est presque...
Alors, pas tout à fait. Alors, ça, c'est un autre. Il y a un débat des pigistes qui aimeraient qu'on ait le droit à l'intermittence, mais l'intermittence, de ce que je sais, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, parce qu'il y a un quota minimum à avoir chez l'intermittence. Ce qui n'est pas le cas pour la pige. Hein. Moi, pour la pige, si je ne pige pas pendant 3 mois, a priori, j'ai le droit à mon chômage tout pareil. Quoi.
D'accord. Donc, tout ça pour dire que le travail de pigiste a toujours existé. Ce que tu décris existe depuis des décennies. Donc, les plus ou moins indépendants, parce qu'on peut être pigiste pour plusieurs rédactions en même temps, hein, je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, on a une certaine liberté dans son travail. Et c'est, je me demande du coup si c'est cette profession, enfin ce statut de journaliste qui a été particulièrement affecté par les évolutions structurelles qu'ont imposé le net. Ou est-ce que les journalistes traditionnels ont eux aussi eu un impact et peut-être se sont orientés vers du journalisme indépendant ? Et du coup, on en vient au sujet principal, ce journalisme indépendant aujourd'hui à l'heure du net, la raison pour laquelle j'imagine, et je me trompe peut-être, la raison pour laquelle j'imagine que c'est indépendant, c'est qu'on peut potentiellement, on a les outils, finalement, comme pour tout ce qui se passe avec la désintermédiation du net, on a les outils pour... si on le souhaite et qu'on est très chanceux et très talentueux, interagir directement avec ses lecteurs. C'est le cas sur les réseaux sociaux, c'est peut-être le cas financièrement avec du financement participatif, avec des newsletters. On connaît bien les newsletters qui ont connu un regain d'intérêt il y a quelques années. Et je me demande si ce n'est pas ces pigistes, finalement, qui ont transformé leur travail de pigiste ou si ça a impacté tout... toute la sphère du journalisme, ou seulement ceux-là qui existaient déjà de toute façon. Et Jérôme, je ne sais pas si...
Ouais, non, je pense que tu as raison, il y a une rupture en fait, c'est que quand tu parles de journaliste indépendant, il faudrait peut-être plus parler de médias indépendants en fait. Avant, tu étais indépendant, tu étais pigiste et tu travaillais pour des médias qui existaient déjà, tu ne pouvais pas créer ton propre média. Aujourd'hui, ce qui a changé avec des plateformes de newsletter, notamment avec TikTok ou avec LinkedIn ou des choses comme ça, tu peux devenir ton propre média. Donc, moi, j'ai créé ma newsletter, je suis mon propre média. Donc, je n'ai plus de statut de pigiste parce que je ne travaille pas pour des rédactions implantées. Donc, je ne suis pas pigiste, je ne suis pas payé par eux. Mais je suis quand même indépendant parce que j'ai créé mon média. Et ça, c'est grâce aux plateformes qui existent aujourd'hui. C'est grâce au fait que j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je peux, ils savent où me trouver. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est une vraie rupture qui ouvre des possibilités, en fait, pour les journalistes. Parce que, enfin, on dit, il y a beaucoup de journalistes sont pigistes, mais la pige, ça peut être très, très difficile, en fait. Là, c'est une porte de sortie qui s'ouvre, qui est difficile aussi. Hein, faut pas se mentir, c'est très difficile de lancer son propre média, mais c'est une piste qui peut marcher et qui offre des possibilités, je trouve, pour les journalistes et qui, quand c'est intéressante, est à creuser en tout cas.
Ouais. Ouais, moi, si je peux abonder dans ce sens-là, en fait, je pense que effectivement, Jérôme a raison de rappeler que la pige, ça peut être très dur parce que je pense que Jérôme et moi, on est deux exemples de personnes pour qui ça m'a revu. En tout cas, ça nous plaît. Il y a vraiment, il faut le préciser, on peut choisir la pige, hein, vraiment. Moi, j'ai choisi la pige, hein, j'ai pas été contrainte d'être pigiste, j'ai quitté le Figaro volontairement. Si j'étais pas partie du Figaro, je pense que j'y serais encore et je serais en CDI et très bien payée. Donc voilà, c'est moi j'étais dans ce cas où ma carrière était un peu toute tracée et j'aurais pu y rester. J'ai fait le choix d'en partir. Il y a aussi des gens qui, malheureusement, la pige, c'est pas vraiment un choix, c'est plus un peu une contrainte parce que ils ou elles ont perdu leur emploi, parce que ils ou elles ont rencontré des situations difficiles dans leur rédaction. Hein, ça peut être les cas de burn-out par exemple. Il y a quand même pas mal de cas comme ça. Ça peut être les étudiants aussi qui, en sortant de l'école, en attendant de trouver un emploi, font de la pige. Donc voilà. Donc il y a toutes ces nuances dans la pige. Et puis après, effectivement, Jérôme a raison d'insister là-dessus. C'est que, outre la pige un peu classique telle que je l'ai décrite et telle que moi je la pratique encore, il y a de plus en plus ce nouveau modèle qui se rapproche presque et je ne sais pas si Jérôme, tu serais d'accord avec ce terme, mais presque de la création de contenu. Alors, je ne suis pas super à l'aise avec ça, mais je trouve que le journaliste devient un peu sa propre vitrine, entre guillemets, en tant que journaliste indépendant, au travers voilà, de newsletters, de podcasts, de son activité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est peut-être un petit peu différent par rapport à ce qu'on nous apprend dans les rédactions, où dans les rédactions, on sert avant tout la marque de la rédaction. Je suis journaliste au Figaro, par exemple. Excusez-moi, tu pourras couper ça, montage. Donc, voilà, effectivement, je pense qu'on est dans une période de transition qui est aussi poussée par des conditions économiques. Hein, par exemple, pour reprendre le sujet de la newsletter, qui est un sujet qui nous intéresse tous les trois, l'une des raisons pour... Oula. Excuse-moi, je vais boire un coup. Je vais boire un coup. Et...
Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Mais
juste pour rebondir sur le terme création de contenu, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de newsletters, par exemple, ou de podcasts qui sont faits par des gens qui ne sont pas journalistes. Et je pense que moi, je ne me considère pas comme créateur de contenu. Alors, même si parfois, certains me disent que je suis créateur de contenu, moi, je suis journaliste, je fais du travail journalistique comme je le ferais dans un journal, les journaux où j'étais avant. Mais il y a une vraie tendance aussi d'avoir des gens qui ne sont pas journalistes, qui créent du contenu. Voilà, donc c'est un truc assez, une frontière assez floue, en fait, entre quand est-ce qu'on est journaliste, quand est-ce qu'on est pas, quand on est créateur de contenu. Moi, je pense qu'il y a des règles très claires quand on est journaliste, des règles déontologiques, des règles de vérification des sources, des choses comme ça, que les créateurs de notre contenu n'ont pas, par exemple. Mais il y a pour les lecteurs, je pense que c'est assez flou parfois.
Il y a des arguments pour et contre, oui.
C'est juste pour quand vous dites créateur de contenu, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je me considère comme un créateur de contenu et je suis parfois amené à me poser la question ou à me refléter cette question dans les yeux ou les oreilles des auditeurs et des auditrices. Qui est-ce que je suis d'une certaine manière pas un petit peu journaliste ? Alors j'essaye de m'imposer un certain sérieux, je ne vais pas dire éthique parce que je n'ai pas cette prétention, mais la question parfois se pose et effectivement la frontière peut être floue, y compris dans le cas de certains journalistes qui font peut-être des choix différents de celui de toi, des tiens Jérôme, et qui se disent je vais créer un truc, un média, et certains aspects de la création de contenu, du travail, du métier de créateur de contenu sur le net, c'est-à-dire se marketer soi-même sur les réseaux sociaux, peut-être avoir du contenu sur TikTok, etc., sont connexes avec ceux de certains types de journalisme indépendant qui sont effectivement journalistes, mais qui ensuite doivent aller chercher leurs lecteurs, communiquer, avoir une identité, presque une marque, à entre guillemets encore, vendre au public. Parce que forcément, quand on rentre dans... Ouais, Lucie.
Bah, je crois que tu mets le doigt sur le sujet qui est que... Alors effectivement, il y a l'enjeu de la déontologie qui est super importante, la déontologie, de l'éthique qui est super importante. Moi, à titre personnel, je considère que être journaliste, c'est quand même une notion qui reste relativement floue, dans le sens où il y a des journalistes qui n'ont pas la carte de presse, par exemple, donc la carte de presse, c'est pas forcément un critère. Je pense qu'il y a des, ce que tu appelles les créateurs de contenu qui peuvent tout à fait faire du travail journalistique. Je pense par exemple, je sais pas moi, sur YouTube, par exemple, je sais pas si vous connaissez le collectif People Make Games, qui est une chaîne YouTube qui font des enquêtes sur l'industrie du jeu vidéo. C'est pas des personnes qui sont des journalistes, a priori, de profession. Pour moi, c'est tout à fait un travail journalistique parce que justement, ça respecte ces règles plus ou moins implicites de notre métier, de croiser les sources, d'enquêter, etc. Mais cette question mise à part, je pense que là où notre travail en tant que journaliste indé peut se rapprocher de la création de contenu, c'est plus sur le côté identité, dans le sens où quand on travaille dans une rédaction, on est journaliste pour Le Monde, journaliste pour Le Figaro, on peut nous identifier parce que des gens peuvent aimer notre plume, par exemple, ou peuvent savoir que voilà, on est le correspondant du Monde à San Francisco, donc on est repéré, mais on est moins poussé à se mettre en avant en tant que personne, alors que quand on est indé, il y a quand même cet enjeu de, on a envie que les gens on a envie que les rédacs, nous contactent, et deux, on a envie que les gens lisent nos productions. Mmh. Et l'une de ces manières d'attirer l'attention, c'est aussi de se mettre en avant. Alors, ça ne va pas aller jusqu'à la mise en avant de la vie perso comme peuvent l'être certains influenceurs ou influenceuses, mais je pense quand même qu'on est dans une certaine mise en scène de soi qui n'est pas forcément évidente. Quand on est journaliste, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre ces 4 dernières années. Mais par exemple, moi j'écris une newsletter que j'écris avec une rédaction. C'est Numérama qui la publie, ma newsletter elle s'appelle Règle 30. Règle 30, l'en-tête, c'est Règle 30, une newsletter proposée par Numérama et écrite par Lucie Ronfaux. Enfin, je fais partie de la marque de Règle 30, entre guillemets. Donc en soi, je trouve que ça se rapproche un peu de... je me considère pas comme influenceuse, mais je pense que je fais un peu de l'influence en ce sens-là. Mmh. Et en même temps, je me contredis moi-même peut-être que ce travail, ça se rapproche aussi de celui de l'éditorialiste, qui est un peu le modèle du journaliste qui a construit une marque autour de sa personnalité.
Ouais.
Donc peut-être qu'en fait, c'est juste la version 2.0, 3.0 de ça, quoi.
Finalement, la vraie question, c'est peut-être est-ce que les éditorialistes ne sont pas les premiers créateurs de contenu influenceurs dans l'histoire des médias, tu vois, et qu'on prend le problème à l'envers. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme, et puis après, j'ai une autre question.
Une fois, j'étais invité à un lancement de produits à Paris et on m'avait invité avec les influenceurs. Ça m'a un peu choqué, ça m'a fait du mal, mais bon, mais j'avais bien précisé, non, moi je suis journaliste, invite-moi avec les journalistes, je veux parler, voilà. Mais
bon. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux gens qui ne veulent pas répondre aux journalistes quand leur papier n'est publié que sur Internet, tu sais. Hein, comment ? Moi, je...
Non, mais je dis ça, mais parce qu'en fait, juste que les influenceurs, c'était autre chose, tu vois. Moi, quand tu es journaliste, tu as une conférence de presse où tu peux poser d'autres questions que... les influenceurs, en fait.
Ouais.
C'est pour ça, mais bon.
Bah, disons qu'il y a différents...
un peu vexé.
Les influenceurs, c'est tellement vaste aussi, tu peux effectivement te retrouver avec des gens qui ont pour habitude, et dont ce n'est pas du tout le métier de parler d'un produit avec un œil critique, simplement ils y vont, ils disent « Oh, regardez, j'ai reçu ça, j'ai vu ça
voilà, »,
et qui n'ont pas du tout, où je comprends tout à fait, oui. Lucie, oui ?
Oui, j'allais rebondir là-dessus. Vu que tous les trois, on écrit les newsletters, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse. Et ce que je rappelle souvent quand je parle du renouveau des newsletters, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas du tout un format nouveau. Hein, je veux dire, c'est un format qui existe depuis le mail, hein, globalement. Le renouveau tel qu'on connaît les newsletters actuellement, il a notamment été drivé donc, par Substack, qui est une entreprise américaine qui est née en 2017, si je ne me trompe pas, qui propose donc un outil d'emailing et de blog, en fait. Et Substack a beaucoup dragué les journalistes, notamment, et c'est pas pour rien, en 2020, au moment du Covid. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Bah voilà, évidemment, il y a eu le Covid, les confinements, etc. Il y a eu beaucoup déjà de licenciements, donc beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés un peu sans travail et qui, du coup, ont été drivés par les conditions économiques à vouloir essayer d'avoir un truc à eux, donc la newsletter. Donc ça, c'est une première raison. Mais la seconde raison, et il y avait un article, je crois, du Washington Post qui avait parlé de ce sujet, je trouvais ça super intéressant, où des journalistes expliquaient pourquoi ils avaient quitté volontairement leur rédaction pour lancer leur propre newsletter. Je pense notamment à l'exemple de Charlie Warzel, qui était journaliste au New York Times à l'époque. Donc voilà, il a quand même... Alors moi, j'ai quitté un CDI au Figaro, mais lui, il a quitté un CDI au New York Times quand même, c'est pas mal pour lancer sa newsletter. Et en fait, il y a plusieurs de ces journalistes qui ont quitté des médias prestigieux pour se lancer en solo. Et l'une des raisons évoquées, c'était, en fait, quand on est journaliste plus ou moins jeune dans une grande rédaction, parfois, ces énormes rédactions, ça peut être un petit peu étouffant. Notamment, c'est un peu compliqué de faire passer ses idées, de réussir à écrire sur ce qu'on a envie d'écrire, etc. Et que parfois, le fait d'être indé, ça donne aussi cette liberté qu'on n'a pas forcément dans ces environnements collectifs. Alors après, je ne dis pas qu'il faut avoir que des journalistes indés. Moi, je pense que c'est super important et qu'on est complémentaire d'avoir des collectifs de journalistes et des journalistes indés. Mais clairement, je pense que ce côté de assumer sa propre voix et assumer ses propres sujets, ça fait partie des facteurs qui attirent aussi dans le journalisme.
J'imagine que c'est ton cas, effectivement. Et puis, on peut rappeler...
Complètement.
Ouais. On peut rappeler que, enfin rappeler, redire que pour certains types de travaux journalistiques, même si on peut faire une grosse enquête en tant qu'indépendant, et certains le montrent et le prouvent, généralement c'est quand même plus confortable quand on a le soutien d'une grosse rédaction qui va nous permettre d'enquêter pendant des semaines ou des mois sur un sujet compliqué. Ce qui n'est pas du tout facile quand on est un indépendant qui a besoin de publier régulièrement pour manger.
Oui,
donc, je crois que effectivement, c'est très complémentaire. Mais du coup, c'est bien que tu évoques cette idée de ce phénomène de la newsletter en 2017, 18, 19 et puis 20. Parce que c'est à peu près à ce moment que chez vous, le switch s'est fait. Et alors, c'est passé par la newsletter de manière différente pour tous les deux. Moi, j'édite aussi une newsletter, donc je parle souvent dans cette émission. Je pense que c'est un petit peu différent parce que je suis pas... mon contenu newsletter est plus de la collection des choses intéressantes et des sujets que je traite dans mes podcasts que de la vraie création éditoriale, peut-être comme vous le faites vous-même avec beaucoup plus de talent et d'expertise. Mais c'est vrai que la newsletter est devenue... indispensable dans ce milieu, peut-être parce que la transition du papier, enfin de l'écrit d'article à de l'écrit de newsletter est très naturelle, mais c'est à peu près à ce moment, donc 2018-2019, que vous choisissez de quitter vos rédactions. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Et dans mon esprit, c'est bah, parce que c'était possible grâce aux merveilleux outils d'Internet, on revient au sujet du rendez-vous tech, mais à ce que rend possible, comme dans l'indépendance Internet, et tu mentionnes, alors c'est peut-être pas ton cas, Lucie, mais tu mentionnais Substack. Substack est aussi un outil extrêmement important, non seulement pour la publication et l'emailing, mais aussi pour la monétisation, puisqu'il y a un module de monétisation intégré à Substack, et c'est ça qui permet de faire vivre les journalistes, une partie des journalistes qui l'utilisent. Mais donc 2018-2019, je reviens vers Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te dis à ce moment-là, bon, bah, allez, je balance tout et je vais aller me mettre, moi, en indé, ce qui semble hyper risqué, quoi.
Ouais, alors moi, c'est 2020, donc c'est un tout petit peu après. Pardon, oui. Ça revient au même, mais en fait, le projet, donc moi, ma newsletter, elle s'appelle Café Tech. Donc, c'est une histoire sur la tech que j'avais en projet depuis. Enfin, c'est l'idée que j'avais quand j'étais déjà à San Francisco pour une raison, et je rejoins ce que dit Lucie, c'est que quand j'étais à San Francisco, je travaillais beaucoup pour Le Monde, et Le Monde, ça reste du grand public. Donc, je faisais des sujets très grand public qui revenaient souvent, en fait. Tout ça, je tenais pas mal des sujets. Et moi, ça me frustrait parce que j'avais des sujets sur lesquels je voulais écrire et je ne pouvais pas écrire parce que ça n'intéressait pas le monde, parce que ce n'était pas le public visé, ou alors je pouvais écrire dessus, mais il fallait rester assez grand public. Donc, j'avais cette idée-là de le faire. C'est une idée que je n'avais jamais abandonnée. Je suis revenu en France, je suis retourné dans une rédaction où ça ne s'est pas super bien passé, voilà. C'est personnel, mais le moment où le Covid arrive, je me dis, je n'ai pas envie de retourner au travail en septembre. Je suis chez moi, je suis très bien, je suis pas retourné en travail en septembre, donc je me dis, vas-y, lance-toi. En fait, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est l'exemple donc, de beaucoup de journalistes américains. Je sais en parler, mais il y a beaucoup de journalistes américains dans les années donc 2018-2019 qui ont quitté des grands médias pour lancer leur newsletter. Donc moi, voilà, je me suis dit, il y a un format, il y a un médium à aller explorer. Est plus facile que de lancer un site internet. Aujourd'hui, si vous lancez un site internet, vous êtes invisible. Avec une newsletter, l'avantage, c'est que les gens sont abonnés. Donc, vous leur envoyez votre contenu tous les jours. Donc, ils lisent plus facilement. Donc, c'est ce qui m'a poussé à le faire.
La possibilité, finalement, parce que oui, que ça soit bien ou mal passé. Ouais, que ça soit bien ou mal passé dans la rédaction, tu aurais pu aller chercher un travail plus stable dans une autre rédaction. Mais tu as choisi
de tenter l'aventure. Non, j'ai choisi ça pour le fait, un, parce que j'avais envie de le faire depuis longtemps, et deux, parce que comme disait Lucie, moi aujourd'hui, j'étais pigiste. Quand tu es pigiste, en fait, tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas si libre que ça, en fait, parce que tu as des chefs qui disent oui ou non à tes sujets, parce qu'ils peuvent te demander le dimanche soir de faire un article et que tu dis oui. Là, moi, ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est que je fais ce que je veux, en fait. Si j'ai envie d'écrire sur un sujet qui m'intéresse, j'écris sur un sujet qui m'intéresse. S'il y a un sujet qui ne m'intéresse pas, par exemple, le lancement des derniers iPhones, ça m'intéresse moins, moi, à titre personnel, mais je n'écris pas sur le lancement des nouveaux iPhones. Ce n'est pas parce que tout le monde dans la presse économique, dans la presse tech, écrit sur le lancement des nouveaux iPhones que moi, j'écris dessus. Voilà, donc ça, c'est une liberté que j'ai, et c'est vraiment un luxe, en fait, quand on est journaliste, d'avoir cette liberté. Mais c'est un luxe qui a un prix, parce qu'à côté, il faut gagner de l'argent, et c'est moins facile de gagner de l'argent quand on est en journaliste indépendant que quand on a son salaire qui tombe tous les mois dans un grand média.
C'est intéressant, cet aspect niche. En tout cas, sujet peut-être moins grand public que tu évoques, parce que moi, c'est entièrement ce sur quoi se base l'intégralité de mon activité. C'est des sujets qui ne sont pas évoqués de la même manière, peut-être plus aujourd'hui, mais encore pas tout à fait, dans la tech. Et quand je me suis lancé, il y a maintenant presque 15 ans, ça n'existait même pas du tout, quoi. Donc, et cette idée de niche, alors dans un domaine différent, j'ai l'impression que c'est ce qui t'a motivé aussi, Lucie. Tu t'es dit, je pourrais, si moi je suis indépendante et que je choisis les sujets que je veux traiter, je pourrais choisir les sujets que je veux traiter et qui ne sont pas forcément ceux qu'on me demande aujourd'hui, c'est ça ?
Ouais, complètement. Alors moi, du coup, pendant 6 ans et demi, quand j'étais au Figaro, j'ai été une journaliste économique, puisque je bossais pour les pages éco du Figaro, ce qui était le deal, hein. Au départ, en tout cas, ça ne me frustrait pas, puisque c'est pour ça que j'ai été embauchée. Mais effectivement, au bout d'un moment, j'ai ressenti l'envie de traiter la tech d'une manière un peu différente. Alors c'est marrant, parce que moi aussi, les iPhones, ça me sortait un peu par les trous de nez. Et puis non, en vrai, alors à la décharge hein, de mes anciens chefs, on me laissait quand même écrire un peu sur la tech différemment, dans le sens où Moi, j'ai beaucoup écrit, par exemple, sur les sujets de modération en ligne, qui sont encore voilà, des sujets qui m'intéressent beaucoup. On me faisait écrire voilà, sur les femmes dans la tech. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la tech, désormais, c'est les sujets de société. Et en fait, la raison pour laquelle je suis partie du Figaro, notamment, c'est pour ça. C'est parce que je voulais en fait, devenir, non pas journaliste éco-tech, mais devenir, c'est comme ça que je me définis maintenant, je suis journaliste société dans la tech. Parce que je pense qu'il y a, dans une société numérisée telle que la nôtre, en fait, parler de la tech, c'est parler de société, et parler de société, c'est parler de la tech. Donc moi, c'est pour ça que je suis partie. Je suis aussi partie pour le dire assez clairement parce que j'étais très fatiguée et que je bossais beaucoup, beaucoup au Figaro et que vraiment, j'ai eu un trop-plein. Et ça, il faut aussi être très clair là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est en rédac que c'est facile et que tout se passe bien. Moi, clairement,
et que c'est tranquille et que t'es assis à voilà, ton bureau et puis il y a le salaire qui tombe tous les mois tranquillement.
Voilà, moi, clairement, vers la fin, ça se passait mal. Et en fait, moi, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est que le Figaro, donc, moi, j'ai pas signé une clause de cession. Moi, j'ai eu le droit à un plan de sauvegarde de l'emploi, un drôle de terme qui est en fait un plan de réduction des effectifs, mais qui a fait que j'ai pu partir avec de l'argent. Et ça, c'est vraiment important parce que si j'étais pas partie avec ce pécule, je pense pas que j'aurais pu me lancer dans la pige sans filet de sécurité, quoi. Parce que ça fait peur. Hein. Quand justement on est en CDI, qu'on a l'habitude de cette régularité, se lancer tout seul, on a beau se dire ouais, ça va être super parce que je vais pouvoir, ça va être ultra enrichissant, je vais pouvoir écrire sur ce que je veux, etc. Ouais, enfin bon, si à la fin du mois j'ai pas de quoi me nourrir, ça va pas m'enrichir grand chose, quoi. donc clairement, c'est, ouais. Voilà, il y a eu cette envie et il y a eu les conditions financières qui sont réunies qui ont fait que j'ai pu partir en 2019 dans ces conditions, quoi.
Sur la question des sujets de société, c'est un truc que j'évoque moi aussi souvent dans l'émission. Quand on a commencé, on parlait des iPhones qui sortaient et des dernières apps. C'était notre pain et notre beurre quotidien. Et au fur et à mesure des années, ça s'est beaucoup transformé. On parle énormément de société, de politique et d'économie. Donc, je comprends cette envie, au bout d'un moment, de parler d'autre chose ou d'en parler différemment.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et puis, au-delà de ça, ce que tu évoques est hyper intéressant parce que une fois qu'on décide de se lancer, c'est bien beau. Et quand on a un pécule, que ça soit par clause de cession ou enfin quel que soit le moyen qui va nous permettre d'avoir un petit pécule pour se lancer, c'est pas un truc qui va durer des années non plus. Et puis après, il faut réussir à se maintenir financièrement et en tant qu'indépendant comme dans tous les domaines, quand on est indépendant, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais dans le journalisme, je peux imaginer que c'est un petit peu plus nouveau encore comme mode de fonctionnement. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous l'aviez envisagé? Est-ce que les choses se sont passées différemment de ce que vous imaginiez peut-être? Des mauvaises ou des bonnes surprises? J'imagine qu'il y a peut-être un petit peu de pige pour certains ou de la newsletter payante ou ce genre de choses. Comment est-ce que on vit aujourd'hui, en tant que journaliste indépendant, peut-être que vous allez me dire, non, c'est que de la pige et tout se passe bien, quoi.
Alors, moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que quelques semaines avant que je décide de partir du Figaro, Numérama est venu me voir et en fait, Marie Turcan notamment, qui est la rédactrice en chef de Numérama, qui est aussi une amie, savait que j'allais partir et m'a dit, si tu pars, est-ce que tu veux écrire une newsletter pour nous? Donc règle 30, en fait, c'était pas mon idée au départ. Hein. C'était vraiment Numérama qui est venu me chercher avec ce projet. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon lancement à la pige. Parce que non seulement du coup, ça m'a positionné sur un format qui est super à la mode en ce moment. Hein. Je veux dire, moi, je suis quand même régulièrement invitée par les newsletters parce que les newsletters intéressent beaucoup les médias. Et puis, surtout, ça a fait que dès le premier mois de ma pige, j'ai eu une pige régulière. Une pige régulière, c'est-à-dire que tous les mois, Moi, je suis payée à la pige pour ma newsletter, ce qui est assez rare comme modèle, mais c'est le mien. Et ce qui veut dire que bah, tous les mois, je sais que je vais être payée pour 4 piges, qui seront mes 4 piges, enfin mes 4 newsletters que j'envoie une fois par semaine. Donc ça, déjà, ça a été ultra important pour moi parce que ça m'a donné un peu ce matelas sur lequel construire ma pige. Alors après, moi, je dis souvent aux jeunes pigistes qui me demandent des conseils que j'ai pas trop en donner parce que moi, j'ai pas eu un début de pige classique dans le sens où quand je suis partie du Figaro, ça faisait déjà 6 ans et demi que j'étais... Indé et 6 ans et demi que j'étais quand même pas mal reconnue sur mon secteur. Du coup, j'ai eu un peu cette expérience de luxe où en fait, il y a eu plus de rédacs qui sont venus me voir pour savoir si je pouvais bosser avec elles que moi qui suis allée les démarcher, en tout cas au début. Je veux surtout pas être prétentieuse, mais je veux aussi être très franche sur mes conditions parce que voilà, je veux pas donner les fausses idées non plus. Donc moi, mon début de pige, il a été assez tranquille et aussi, je fais partie de ces gens qui ont plutôt bien vécu le confinement parce que du coup, moi, je me suis mise à la pige en 2019. Fin 2019, et on a été confinés en mars. Et du coup, moi, ce qui me faisait très peur dans la pige, c'était le fait de ne plus être en rédaction, de plus être avec des gens et de bosser, de bosser toute seule. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé confiné en même temps. Donc, j'ai pas du tout mal vécu ce truc-là, quoi. Donc, alors après, aujourd'hui, la pige représente toujours la majorité de mes revenus, mais il y en a d'autres. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant.
Si, je veux bien, oui, tout à fait.
Ouais. Donc, en gros, moi, mes revenus actuellement, je dirais que la pige, ça représente 65%, 70% de mes revenus, donc quand même une bonne majorité. Et à ça, j'ajoute plusieurs choses. Il y a le chômage qui vient compléter en fait de temps en temps. Mais bon, le chômage, je le relie à la pige parce que c'est parce que je pige que je touche le chômage. Je donne des cours en école de journalisme. Et donc ça, je fais des CDD régulièrement qui viennent me compléter. Et sinon, moi, j'ai aussi une activité d'autrice. J'ai écrit des livres. J'ai écrit un roman, puis j'ai écrit notamment un livre pour ados qui s'appelle Internet aussi, c'est la vraie vie. Et en fait, ce livre pour ados, il m'a donné beaucoup d'opportunités, notamment d'interventions en collège et en lycée. Donc moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup d'interventions. Je dois en faire une par mois, peut-être une tous les deux mois. Et mine de rien, voilà, ça me fait quand même un petit revenu assez régulier, en plus des droits d'auteur du bouquin. Et donc, et c'est tout ça, en fait, mis bout à bout, qui fait mon salaire à la fin du mois, quoi.
Donc toi, t'as pas de relation financière directe avec tes lecteurs. C'est
pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de Patreon, j'ai pas d'Ulule, j'ai pas de
Substack.
Je suis payée, mais je suis payée par ma rédaction. Donc moi, pour l'instant, j'ai un modèle assez traditionnel en fait de revenus. Ça changera et c'est rigolo parce que par ailleurs, j'évolue dans des domaines assez nouveaux. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, ouais, je suis sur un modèle très tradit. Alors après, je touche du bois, je touche mon bureau là. Peut-être qu'un jour, ça changera. Mais pour l'instant, j'ai la chance d'avoir ce modèle assez classique. Ouais.
On pourra parler peut-être de la manière dont tu gères ton image aussi, ce qui est peut-être une nouveauté pour certains journalistes dans un instant, mais je pose la même question à Jérôme. Toi, au moment où tu te dis « bon, bah, je me lance », c'est bien beau de se lancer, mais comment ça fonctionne au quotidien pour mettre du pain sur la table, quoi ?
Ouais, alors moi, je n'ai pas de pige. Moi, je ne pige pas pour des gens. Donc moi, j'ai mon média. Donc j'ai créé une entreprise qui est... aujourd'hui ma source de revenus, j'ai pas de, alors ce que je vends moi c'est de la pub en fait, donc j'ai des sponsors qui vont sponsoriser ma newsletter, ce qui est un modèle est différent de ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis c'est beaucoup de modèles payants pour les newsletters. En France c'est très compliqué de faire payer des gens déjà pour la presse traditionnelle, alors pour les newsletters c'est encore plus compliqué, même s'il y a quelques exemples qui marchent bien sûr, mais ça reste assez compliqué. Donc moi j'ai de la pub. J'essaie de vendre le plus de pubs possible et après j'essaie de me verser un salaire, alors pas tout le temps des fois. Alors moi j'ai eu l'avantage, c'est que quand j'étais à San Francisco, comme j'étais pigiste très régulier et que je gagnais très bien ma vie, donc j'ai pu économiser, ce qui me fait qu'aujourd'hui quand j'arrive pas à vendre de la pub, j'ai quand même de l'argent de côté qui me permet de vivre. Mais voilà, oui, c'est toujours un challenge de gagner de l'argent quand on est indépendant. Alors encore plus quand on est pigiste, déjà c'est difficile parce qu'il faut aller trouver des piges. Quand c'est régulier, c'est bien, mais des fois, ce n'est pas régulier. Et pour beaucoup de journalistes, malheureusement, ce n'est pas régulier. Et quand on est un média indépendant, comme je le suis moi aujourd'hui, c'est un vrai métier, c'est un vrai challenge. Mais voilà, donc...
Mais du coup, aller chercher la pub, tu as une agence, tu as quelqu'un qui fait ça pour toi ou c'est toi-même qui va... Parce que c'est un métier complètement différent.
Non, alors j'ai les deux, en fait. Des gens qui me ramènent de la pub, donc ils prennent une commission. Donc ça varie, ça dépend. J'ai fait plusieurs collaborations, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et je vais aussi, j'essaie de vendre moi aussi de la pub, donc ce qui me prend du temps en fait, et ce qui fait que ça change un peu le métier. Donc, c'est-à-dire que j'ai une casquette de journaliste que je mets quand j'écris ma newsletter, et puis j'ai une casquette d'entrepreneur que je mets quand je vais faire des démarches commerciales pour trouver de la pub. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu différent quand on se lance tout seul dans ce projet de journaliste indépendant, c'est qu'on devient aussi directeur financier de sa propre entreprise et que voilà, mais bon. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que c'est parfois pesant parce que déjà, c'est pas mon métier d'aller chercher de la pub, et deux, ça prend beaucoup de temps en fait. Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte en fait, mais c'est extrêmement compliqué d'aller de vendre de la publicité aujourd'hui sur Internet.
Il y a un autre aspect également, on pourrait peut-être évoquer la manière dont certains autres journalistes monétisent leur production, mais il y a un autre aspect qui m'intéresse, c'est celui, comme on l'évoquait à plusieurs reprises, celui de la gestion de notre image, parce que qu'on le veuille ou non, quand on est vraiment indépendant dans cette configuration, on doit un petit peu gérer notre image. Et puis tout le monde, tous les gens qui sont un minimum public sur Internet, et quand on a son nom en bas d'un article, on devient mécaniquement un petit peu une personnalité publique dans une certaine mesure. Mais il faut du coup gérer son image soi-même sur les réseaux sociaux, etc. Alors, des journalistes dont le nom est connu et qui ont une image publique, ça date pas d'hier, mais c'est quand même une configuration différente aujourd'hui, et peut-être parce que à tous les niveaux, on n'a pas besoin d'être un éditorialiste à succès pour interagir avec ses lecteurs et ses lectrices. Est-ce que vous, c'est une chose que vous travaillez consciemment ? Est-ce que vous avez j'irai pas jusqu'à dire stratégie, mais peut-être des choix dans la manière dont vous gérez vos communications publiques, ou est-ce que c'est juste comme ça vient et on gère au jour le jour, Lucie, peut-être ?
Alors moi, je le travaille consciemment, mais prudemment, je dirais. Ça vient aussi du fait que, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, mais moi, mon travail, c'est aussi un travail qui touche beaucoup au féminisme. Voilà, je parle beaucoup des femmes dans la tech et des femmes sur Internet en général, étant une femme sur Internet, donc ça me touche aussi personnellement. Et c'est vrai que dans plusieurs de mes projets, par exemple, j'utilise la première personne, le jeu. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout au Figaro, parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait généralement dans les médias dits traditionnels. Et en France, en général, en fait, qu'aux États-Unis, ça c'est beaucoup plus. Donc voilà, par exemple, ma newsletter, elle est écrite à la première personne. J'utilise le jeu. J'ai aussi fait plusieurs séries de podcasts pour Binge Audio, où chez Binge, ils encouragent beaucoup leurs auteurs et leurs autrices à utiliser le jeu. Donc je l'ai utilisé, puis j'ai mis en scène certaines choses, je sais pas si j'ai envie d'utiliser le mot intime, mais certaines choses qui touchaient à mon
du
vécu,
enfin,
par
quoi.
Exemple, quotidien ou pas, parce que par exemple, mon premier podcast pour Binge, il s'appelait Mort à la ligne, et ça parlait du rapport au deuil dans le numérique, et en fait, la raison pour laquelle je faisais ce podcast, c'est parce que j'ai perdu ma mère il y a 6 ans, et que du coup, voilà, je raconte ce genre de choses. Donc, moi, la manière dont je le conçois, c'est que je me mets à la place de mes lecteurs et de mes lectrices, et je me dis bon, moi en tant que lectrice, j'aime bien lire certains formats où l'auteur ou l'autrice se met un peu en scène, parce que ça me fait me sentir plus proche du sujet, et je trouve que ça marche pour certains sujets. Typiquement règle 30, voilà, je suis sur un format de newsletter où je me mets un peu dans la position de la pote qui s'y connaît un peu plus que toi et qui va t'expliquer un peu ces sujets d'apparence assez complexes. Moi, je trouve
c'est,
que ça
c'est vraiment, excuse-moi sur ce point, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu te mets quand tu écris la newsletter. Tu te préconditionnes comme un chat GPT, tu dis ok, aujourd'hui je suis la pote qui s'y connaît un petit peu mieux, ou ça vient naturellement?
Non, ça, je fais pas de conditionnement non plus, parce que je suis plus efficace qu'une IA au final. C'est quelque chose que je travaille clairement, et que je trouve logique, parce que je trouve qu'envoyer une newsletter, c'est pénétrer un peu dans l'intimité des gens, dans le sens où une boîte mail, c'est un peu le dernier endroit qu'on maîtrise à peu près sur Internet. C'est-à-dire que on peut choisir à qui on s'abonne, à qui on s'abonne pas, et on a priori pas trop de spam, en tout cas dans sa boîte principale. Donc moi, j'aime bien l'idée de dire si tu m'ouvres ton intimité, je veux bien jouer le rôle et faire comme si on se connaissait un petit peu. Alors après, ayant dit ça, je mets aussi une grosse limite. Moi, je mets en scène quelques aspects de ma vie privée, mais qui sont des aspects que je choisis de rendre public. Je mets pas en scène le reste, c'est-à-dire j'ai un compte Instagram qui est public, par exemple. Vous ne verrez pas des photos de ma famille, des photos de mon partenaire. Voilà, je verrai les photos de mon chat éventuellement, mais ça sera tout. Enfin, voilà. Et il y a des journalistes, hein, qui vont beaucoup plus loin dans le gonzo et qui mettent beaucoup plus en scène, bah, par exemple, toutes les journalistes féministes qui mettent en scène bah, leur parentalité ou voilà, les sujets qui vont les toucher. Et ça, je le comprends. Moi, ce n'est pas, c'est pas la manière dont je le fais, mais c'est vrai que j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Et par ailleurs, j'apprécie toujours d'écrire des articles qui ne sont pas à la première personne. Hein. Je veux dire, quand j'écris pour Libé et Le Monde, je réemploie un ton beaucoup plus neutre. Et j'aime bien faire les deux, en fait. Et je pense que les deux ensemble, ça marche bien.
Jérôme, j'ai l'impression que toi, tu es plus dans un format traditionnel, je me livre et je suis une connaissance. Enfin, tu t'orientes moins dans cette catégorie de relations qu'on appelle les relations parasociales, donc dans un sens, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est ces relations qu'on peut établir et que la plupart des auditeurs ont établi avec moi, parce que moi je suis un petit peu plus dans cette relation très personnelle qui comment dire, comment le qualifier, je dirais pas que je livre toute mon intimité, mais par contre vous savez comment je vis et les évolutions de ma vie, donc il y a cette relation parasociale. Toi Jérôme, j'ai l'impression que tu es plus dans cette fourniture de services à valeur ajoutée que peut offrir un journaliste qui connaît bien son domaine de la tech, même si évidemment il y a de ça dans tout ce qu'on fait en tant que travail plus ou moins journalistique ou de création de contenu, y compris tout le monde, quoi. Mais...
Ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, je n'utilise pas le jeu. Je n'ai jamais utilisé le jeu. Je n'utilise pas le jeu parce que dans mon idée, voilà, je fais des articles comme j'écrivais des articles avant sur Le Monde. Alors, c'est parfois... Peut-être c'est un positionnement qui est moins intéressant ou pas. Enfin, voilà, je pense que les deux ont vocation à cohabiter. Donc, du coup, moi, je ne fais pas trop de personal branding. Je ne suis pas sur Instagram, par exemple. Mais moi, ce qui a beaucoup changé depuis que je me suis lancé en indépendant, c'est que j'ai lancé mon média, mon utilisation des réseaux sociaux a changé. Avant, j'étais beaucoup sur Twitter. Et sur Twitter, je tweetais de l'actu avec juste l'intérêt de tweeter de l'actu. Souvent il n'y avait pas de lien, je disais juste voilà il s'est passé ça, voilà ce que j'en pense. Aujourd'hui maintenant quand je suis sur un réseau social, ce qui m'intéresse c'est que des gens cliquent, des gens s'abonnent à ma newsletter ou des gens cliquent pour aller lire l'article que j'ai mis en ligne, et donc j'ai changé un peu de vision, et ce qui fait que j'ai changé aussi de réseau social que j'utilise le plus. Sur Twitter quasiment je ne tweete quasiment plus parce que déjà ça ne rapporte pas beaucoup de clics. Après il y a toutes les autres débats sur Elon Musk et la vision qu'il a de Twitter, ou de X, pardon. Donc moi, je suis beaucoup plus aujourd'hui sur LinkedIn parce que c'est, pour ma cible en tout cas, c'est ce qui me permet de toucher le plus de monde, en fait. Parce que les algorithmes permettent de mieux remonter sur LinkedIn, d'être visible, d'avoir plus de clics, d'avoir plus de gens qui s'abonnent, qui me suivent sur LinkedIn ou qui s'abonnent. Et du coup, aujourd'hui, je regarde, par exemple, un truc que je regarde, c'est combien j'ai de followers sur LinkedIn. Avant, je ne regardais absolument pas et ça m'intéressait absolument pas. Mais voilà, ça fait partie. Alors, je ne me mets pas en scène, mais je poste beaucoup plus sur LinkedIn et je poste des trucs plus longs. J'essaie d'adopter un peu le format LinkedIn pour développer une marque. En fait, voilà, je suis une marque aujourd'hui sur LinkedIn et ma marque sur LinkedIn, ça me permet de développer ma marque newsletter.
Ouais. Oui, bah, d'une certaine manière, alors j'ai l'impression que c'est vous y allez par touches assez légères, mais vous avez tous les deux, je pense que vous avez ressenti le besoin de gérer votre image d'une manière que vous ne ressentiez pas quand vous étiez journaliste dans une rédaction, ce qui est normal et ce qui touche un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de contenu. Il y a cet aspect du travail de créateur de contenu qui est, c'est bien de créer le contenu, mais il faut aussi que les gens y accèdent. Et donc, ou en tout cas, s'ils y accèdent et qu'ils s'intéressent à vous, il faut leur présenter quelque chose. Ce n'est pas obligatoire, mais on imagine que si on ne se prête pas à ce jeu-là, on a moins de points de contact avec notre audience. Et il y a peut-être un dernier aspect qu'on pourrait évoquer, qui est ce que propose un journaliste indépendant aujourd'hui, c'est vraiment... sa voix, sa marque, sa vision, on va aller lire Règle 30 ou Café Tech parce que on veut savoir ce que pensent Jérôme Marin et Lucie Ronfaux. Je pense que, la manière dont la ligne éditoriale de la newsletter est évidemment importante, mais j'imagine que si je vois un article qui a été écrit par une personne que je ne connais pas et une personne qui a une voix et dont je connais la qualité du travail, c'est la personne dont je connais la qualité du travail que je vais aller regarder. Et à une époque où on a une floraison, enfin une multitude, plus qu'une multitude, une infinité de contenus, ben c'est ça qui compte. Et c'est là je parle peut-être dans mes fantasmes et dans la manière dont je vois les choses de mon point de vue de podcasteur indépendant, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce travail de journaliste indépendant, vraiment complètement indépendant, peut exister aujourd'hui, un petit peu plus qu'avant, même si c'était peut-être possible avant. Lucie, on va lire tes articles et tes newsletters parce que c'est Lucie Ronfaux qui les écrit, et donc Lucie Ronfaux est une personnalité publique.
Alors oui, alors déjà, je pense même quand j'étais au Figaro et que j'étais pas...
C'était déjà le cas, oui.
Une personnalité publique, entre guillemets. Mais non, je pense que c'est pas un fantasme de ta part de dire ça, je pense que c'est très vrai. Après, c'est là où je trouve qu'au final, on réinvente les choses et en même temps, pas vraiment, dans le sens où... Je reviens à la figure de l'éditorialiste, hein. Je veux dire, ça a toujours existé, les grandes plumes, les éditorialistes, les grands reporters, on a toujours eu des figures de journalistes plus connues que d'autres, dont on suivait... dont on suivait le travail, l'écriture. Enfin voilà, par exemple, moi, la figure qui me faisait beaucoup rêver quand j'étais étudiante en journalisme, c'était Raphaël Baquet du Monde, qui était connu pour sa plume, enfin, qui est toujours connu pour sa plume. Voilà. Je pense que la différence, c'est que y a toujours eu un nombre très restreint de personnes dont on connaissait la plume et dont on respectait les opinions, dont on cherchait les opinions. Et je pense que les outils numériques ont un peu ouvert les portes et rendu ce rôle un peu plus accessible à plus de gens. Et puis aussi, l'a rendu beaucoup plus niche. C'est-à-dire que, voilà, on va s'intéresser... moi, on ne va pas me suivre pour suivre toute l'actualité, clairement. Moi, je suis sur ma niche, qui est effectivement le numérique, mais avec un point de vue inclusif féministe. Et je pense que les gens me suivent pour mon regard sur ces sujets en particulier. Et ça, je trouve ça intéressant, et c'est ce que je travaille d'ailleurs, parce que aussi bien, je trouve ça intéressant aussi bien pour les lecteurs et lectrices, mais aussi bien pour les rédactions. Moi, j'ai des rédactions qui viennent me voir avec des idées de sujets en me disant, on a ce sujet qu'on aimerait explorer, et on aimerait que tu l'explores à la manière dont tu explores les sujets d'habitude. Donc ça, c'est tout bénef pour moi, du coup, de vraiment d'avoir creusé ma niche et de la revendiquer, entre guillemets. Et il y a pas mal de journalistes pigistes qui font ça maintenant. Et moi, c'est pour ça que, du coup, j'enseigne en école de journalisme et j'enseigne notamment les newsletters éditorialisés. Donc, j'apprends à des étudiants à écrire des newsletters qu'ils vont incarner, pas forcément avec le jeu, hein, mais qu'ils vont assumer tout seuls. Et moi, je leur dis souvent, la newsletter, c'est un super exercice pour travailler un peu sa voix et travailler un petit peu son petit sujet. Ça ne veut pas dire que votre carrière sera consacrée à cette petite niche que vous allez vous créer. Mais c'est toujours bien de le travailler parce que ça vous rend plus visible, en fait, aux yeux des gens et aux yeux des rédacs. Donc moi, c'est vraiment un truc que je travaille consciemment. Et pour l'instant, encore une fois, je touche du bois, ça me réussit plutôt pas mal. Ouais.
C'est intéressant, cette question de niche, effectivement, parce que ça permet, d'une certaine manière, à presque tout le monde d'avoir... comment dire ? Il y a cette citation d'Andy Warhol, enfin, qui est hyper connue, à laquelle je pense souvent, c'est les 15 minutes de célébrité, dont il disait, à l'avenir, avec une préscience intéressante, tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité. D'une certaine manière, il avait raison, mais pas de la manière dont il pensait, puisque j'ai l'impression que c'est pas que tout le monde a 15 minutes de célébrité, mais presque tout le monde peut toucher... 15 minutes de... Enfin, pas 15 minutes, mais un 15e de pourcent de la population, en fait. C'est pas que la célébrité touche la société entière, mais un 15e de pourcent de la société. Et tout le monde peut avoir son public. C'est la fameuse théorie des 1000 vrais fans, des 1000 true fans qui peuvent vous faire vivre. Alors, pas forcément à cet extrême dans vos cas. Mais oui, c'est vraiment la concrétisation de ce que disait Warhol d'une manière différente. On est tous nos grands éditorialistes dans notre petit domaine, finalement, avec notre petit public, j'ai l'impression.
Oui, peut-être. Alors après, avec la nuance, je te laisse la parole, Jérôme, après, mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est un modèle qui est intéressant. Je ne pense pas que c'est le seul modèle qui devrait exister. Et on a besoin encore de médias, de grands médias, de grands collectifs. Et pour moi, je considère mon travail comme complémentaire de ce que font les médias, en fait. Hein. Évidemment que je n'imagine pas un monde dans lequel le journalisme, c'est seulement des newsletters niches. Évidemment, quoi, déjà, un, parce que toutes les newsletters ne sont pas niches. Typiquement, Café Tech, je pense, est beaucoup plus sur une approche journalistique globale de la tech et qui apportera pas la même chose que ce que moi j'apporte. Et puis voilà, on a besoin de médias, on a besoin du Monde, on a besoin de Libération, on a aussi besoin des pure players comme Street Press. ces deux mondes doivent coexister et doivent se nourrir les uns des autres.
C'est pas moi qui vais te dire le contraire, étant donné que sans le travail des vraies rédactions, je pourrais pas faire le mien du tout, tu vois. Ça ne serait pas possible. Ouais, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ou je pense qu'on peut arriver à la conclusion doucement.
Non, mais en fait, je sais même plus ce qui était la question. Donc.
C'est la preuve que la conversation a été intéressante. On va dire ça comme ça. Ouais. Peut-être en conclusion, je vous pose une dernière question avant qu'on se quitte. Comment est-ce que vous voyez évoluer ces métiers-là ? J'ai l'impression qu'on est dans une situation aussi étonnante que ça puisse paraître. Relativement stable, et quand je dis relativement stable, je ne parle pas à 15 ans, hein, mais peut-être dans les quelques années prochaines, j'imagine pas un chamboulement massif dans les 5 ans, on va dire. Et puis au-delà, on n'a pas de visibilité, donc à moins que vous n'ayez une boule de cristal dont vous voulez me révéler les secrets, je pense qu'on se limitera aux 5 ans. Mais comment vous voyez sur les 5 ans à venir les choses évoluer ? On continue comme ça ou est-ce qu'il y a d'autres changements que vous imaginez, peut-être Jérôme, justement, en conclusion ? Pour le travail que vous faites aujourd'hui et le travail plus généralement de ces journalistes indépendants.
Ouais. Mais je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a. Alors, je parle pour ce que je fais moi, quand faire sa newsletter soi-même, et c'est de plus en plus, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Kessel en France, qui est un peu le Substack français, qui est pas mal recruté de journalistes ou d'anciens journalistes ou de plumes pour lancer ses newsletters. La vraie question que je me pose, en fait, c'est comment on gagne de l'argent. En fait, la newsletter ou le podcast, hein, c'est très intéressant comme ça, c'est très attirant pour les aspects dont on a évoqué. Vous créez votre propre média, vous parlez de ce que vous voulez, vous créez une marque aussi, c'est important. Mais c'est comment on gagne de l'argent. Et ce que je redoute, en fait, c'est que y a pas, que ce soit trop compliqué, en fait, de gagner de l'argent dans le modèle actuel. Donc, je sais
donc toi,
pas,
au contraire, tu ne penses pas qu'on est sur des rails. Tu penses que ce n'est pas très stable, contrairement à ce que je dis. Quoi.
Je sais, ouais. Il y a des rails, il y a une tendance. Mais le vrai défi aujourd'hui, c'est de transformer cette tendance, de transformer cette volonté de journaliste. Et voilà, si tu es pigiste et que tu galères, et notamment, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la newsletter qui s'appelle Vert. Mmh. Voilà, la personne qui a créé cette newsletter, il était en pige, il n'arrivait pas trop à joindre les deux bouts. Il a dit, je vais créer une newsletter, et c'est un super succès aujourd'hui. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a pas, c'est pas tant que ça en fait. Et j'ai peur que quand on voit quelques succès, on se dise, ah ben ouais, ça, c'est tout tracé. En fait, je pense que c'est pas tout tracé, que c'est très compliqué, qu'il y en a qui vont réussir, beaucoup réussiront pas, et que pour les jeunes journalistes qui commencent aujourd'hui, c'est peut-être pas l'idéal. En fait, c'est pas facile de faire ça parce qu'il faut être déjà un peu connu, il faut déjà avoir un peu une marque, un peu avoir une autorité, et que c'est pas la voie en or que peuvent laisser penser quelques succès en fait qui sont très visibles.
Est-ce que tu as l'impression que c'est cette image qu'on a ? Parce que enfin, c'est comme dans la musique ou dans le cinéma ou dans tous ces métier mi-artistique, mi-entrepreneur, il y a beaucoup d'appelés, ou je ne sais pas, dans le football, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, en tout cas beaucoup d'envie et peu qui y arrivent, y compris dans... Enfin, c'est la même chose sur Twitch, sur YouTube, c'est partout pareil. C'est un message que j'entends souvent, mais moi, je n'ai pas l'impression que tout le monde a l'impression oh, « bah, c'est facile, tu lances un newsletter, tu as réussi ». Évidemment que c'est compliqué et que tout le monde n'y arrivera pas, non ?
Oui, certainement. Après, moi, quand je parle pour mon exemple personnel, quand je l'ai lancé, je me suis dit que ça va marcher forcément parce que ça marche ailleurs, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que tu as toujours tendance à voir les réussites parce que c'est ce qui est visible, en fait, et tu vois
pas les échecs.
Il y a l'air à côté. Voilà, et donc, et en fait, c'est juste ça, que c'est une voie à suivre. Est-ce que demain, si un journaliste qui est en CDI me dit est-ce que je devrais lancer ma newsletter, je lui dirais réfléchis quand même bien.
Oui.
Réfléchis bien parce que c'est pas aussi facile que tu peux le croire, quoi. Et moi, enfin voilà, je regrette pas d'avoir quitté mon CDI, hein, très clairement. Mais peut-être que s'il y a 3 ans, j'avais parlé avec quelqu'un qui avait lancé sa newsletter avant moi, peut-être que j'aurais peut-être pas fait en fait.
Jérôme, fais gaffe quand même. Ah, ok. Lucie, toi, non, tu vois comment les... Ah, pardon. Vas-y.
Non, vas-y, pardon.
Lucie, tu vois comment
J'allais abonder dans ton sens, clairement, d'autant plus que moi, encore une fois, ça ne va pas forcément, mais moi, mon modèle financier, il est très traditionnel. Hein, je suis une pigiste assez classique au final. Et moi, je me méfie toujours de... Bah, typiquement, on a parlé de Substack, on parle de Kessel. S'il y a bien une chose que nous ont appris les années 2010, c'est qu'il faut toujours se méfier des plateformes qui nous promettent qu'on va devenir riche grâce à elles. Parce que bah, en fait, les plateformes elles veulent avant tout défendre leur modèle économique et que bah, forcément, voilà, une plateforme, ça peut changer les règles du jour au lendemain, une plateforme, ça peut fermer, une plateforme, voilà, une plateforme, c'est jamais stable et une plateforme n'est jamais un employeur. Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup à mes étudiants. Et par contre, les journalistes qui... Alors, Jérôme, voilà, Jérôme a créé son propre média, donc c'est encore un cas de figure différent. Pour parler dans ma situation, bah, les journalistes comme moi, on a des employeurs qui sont les médias et qui... doivent nous donner les conditions en fait de faire notre travail voilà en ayant un revenu correct en ayant une certaine stabilité etc. Donc moi je vois plutôt d'un bon œil quand même le j'ai l'impression que il y a beaucoup plus dans les jeunes générations de journalistes une prise de conscience et un discours autour des droits sociaux, ce qui n'était pas forcément le cas en tout cas moi quand j'étais en école de journalisme. J'avais pas l'impression qu'on parlait trop de ces sujets. Voilà, même aux États-Unis, on parle de syndicalisation, etc. En France, on a quand même des droits importants, on a une vraie culture syndicale. Moi, par exemple, je travaille pour un média, enfin, je vais commencer une collaboration avec un média qui s'appelle Origami, qui est un média jeu vidéo qui s'est monté en Scope. Et je trouve que c'est un signal ultra intéressant, en fait, d'avoir des journalistes qui essayent aussi de se poser les questions des conditions économiques dans lesquelles on fait ce travail. Donc, pardon, cette réponse est très longue, mais globalement, moi, dans 5 ans, si je me permets un peu d'optimisme, ça serait d'avoir des médias qui prennent en compte ces nouveaux formats, les newsletters, les podcasts, etc., mais qui, plutôt que d'attendre que seulement des entrepreneurs aillent potentiellement se casser les dents, les lancer tout seuls, bah, de nous accompagner, en fait, sur ces formats. Moi, j'ai envie de ça, en fait. Dans 5 ans, si, je sais pas, moi, Le Monde pouvait embaucher 4-5 journalistes indépendants pour lancer leur propre newsletter et qu'ils le font dans des bonnes conditions et qu'ils puissent s'y consacrer à 100%, moi je trouverais ça super. Voilà, c'est un gros exercice d'optimisme hein, que je suis en train de faire.
sur le modèle de ce que tu fais chez Numérama avec Règle 30, en fait, tu dis une sorte de collaboration, d'association entre un média et une voix pour proposer un produit au lecteur.
Complètement. Bah moi, du coup, je trouve que c'est un peu c'est bénéf, tout bénéf pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, j'ai la sécurité de ce média qui investit en moi régulièrement. Et de l'autre côté, le média a accès à une journaliste indépendante qui a cette liberté et ce temps en fait consacré à avoir un seul projet, ce qui est compliqué en fait en rédac. Hein. Moi, je l'avais bien ressorti quand j'étais au Figaro. C'est compliqué de se consacrer à un truc en particulier. Donc moi,
ce modèle permet. Ce modèle permet un type de contenu éditorial un petit peu différent. Mais du coup, j'ai une question qui me vient, tu ne pourras peut-être pas y répondre, ou tu ne voudras peut-être pas y répondre, mais Règle 30, la marque, entre guillemets, la newsletter, les abonnés, ils appartiennent à Numérama. Si demain, Marie décide, Patrick, il est quand même vachement plus légitime pour parler sur Règle 30.
Pour parler de féminisme,
C'est ça, pour parler de féminisme. Lucie, on va te demander de te mettre de côté et laisser Patrick reprendre Règle 30. Elle pourrait.
J'avoue que ta concurrence ne me fait pas trop peur. non, mais en vrai,
tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est de toute façon, quand il y a des avantages et des inconvénients, moi, c'est le choix que j'ai fait de me dire, effectivement, Règle 30, c'est un projet qu'on a construit ensemble avec Numérama et qui, du coup, en tant que pigiste, c'est le projet de Numérama. Alors après, il y a des cas, je pense notamment au cas de Casey Newton, qui est l'ancien journaliste de The Verge, gros média indépendant, qui a lancé donc Platformer. Platformer, à l'origine, c'était newsletter de The Verge. Et en fait, Casey Newton a fini par partir en tant qu'indé, a récupéré, d'ailleurs ça ne s'appelait pas Platformer à l'époque, mais bon, il a quand même récupéré cette newsletter, et par contre maintenant il collabore régulièrement avec The Verge, notamment en publiant certains numéros chez The Verge. Donc, comme quoi, en fait je trouve qu'il y a plein de nuances à avoir, et que il y a plein de collaborations possibles à avoir aussi, et moi à l'avenir, moi je veux vraiment me battre pour des journalistes qui puissent manger tous les mois. Et je pense que dans ces modèles hybrides, on permet de nous sécuriser aussi. Quoi.
J'irai plus loin, je dirais qu'il faudrait qu'ils mangent tous les jours quand même, parce que tous les mois, c'est un peu...
C'est encore mieux.
Mais c'est très gentil de ta part de rigoler à ma plaisanterie de qualité douteuse. Merci à tous les deux d'avoir passé un petit peu de temps avec moi, beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, comme toujours. Si on veut que les auditeurs puissent vous retrouver, du coup, alors évidemment, on a répété le nom de vos newsletters Règle 30 et Café Tech, si c'est les newsletters qui les intéressent. Est-ce que vous voudriez leur donner un lien, un réseau sur lequel vous suivre plutôt qu'un autre ? Lucie, commençons par toi.
Moi, je suis principalement maintenant sur Blue Sky et sur Mastodon. Donc, si vous tapez du Sironfo, vous devriez tomber sur moi. Voilà.
Super, Jérôme.
Alors moi, si vous voulez ne pas me suivre, vous allez sur Twitter, où je poste quasiment rien. Et si vous voulez m'avoir des nouvelles, plutôt sur LinkedIn aujourd'hui, donc Jérôme Marin sur LinkedIn. Voilà.
Très bien. Super, merci à tous les deux. J'espère que, chers auditeurs et auditrices, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On revient, alors je ne sais pas si la semaine prochaine, on aura un autre spécial sur l'IA ou si c'était la semaine dernière, l'IA en pratique. Mais dans tous les cas, dans une ou deux semaines maximum, on revient avec l'actu hebdo de la tech comme toutes les semaines. Et j'espère que vous serez au rendez-vous également. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et un très bon réveillon du nouvel an et que vous êtes en forme et parés pour un 2024 qui sera évidemment plein de joie et de bonheur. Ça, je n'en doute pas. Merci à tous et à toutes. À très très vite. Ciao.